Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir d'inaugurer le retour des épisodes Dans le Bunker, ces analyses de films ou de séries touchant à la guerre, depuis essentiellement l'angle militaire. Alors j'ai déjà dit dans un précédent podcast que je pouvais malheureusement pas reprendre le rythme un peu effréné du premier confinement, mais je vais insérer désormais le format dans les épisodes du vendredi, en alternance avec les Dans le Viseur, et donc en faire à peu près un par mois, globalement plutôt à la fin du mois. Et qui de mieux pour reprendre ces épisodes que le lieutenant-colonel Michelin, qui avait d'ailleurs trouvé le nom du format, les Dans le Bunker, et qui se fait rare dans le podcast ces derniers mois, notamment parce qu'il a quitté Paris pour rejoindre un régiment d'infanterie dans le centre de la France. Ce qui est rare étant précieux, on est donc ravis de retrouver Jean Michelin dans le collimateur. Alors comment ça va depuis quelques mois maintenant ?
Eh bien écoutez, ça va très bien. Je dois vous avouer que la vie parisienne ne me manque pas et que ça fait du bien d'être de retour dans les forces vives et les gens qui font le cœur du métier militaire. Il y a eu un petit choc culturel à la réouverture de cantines, à la réexhumation de gilets de combat, de casques, de porte-chargeurs. Mais globalement, je vis ma meilleure vie, même si le retour en régiment, c'est surtout un témoignage du fait que j'ai quand même vieilli par rapport à mon dernier passage. En dehors de ça, tout va bien, je vous remercie.
Bon, et on a donc le plaisir de parler avec vous aujourd'hui pour discuter d'un film de 2014 de David Ayer, à savoir Fury, avec notamment à l'affiche Brad Pitt, dans ce que personnellement je trouve être un de ses tout meilleurs rôles, mais aussi Shia LaBeouf ou encore Michael Peña. Et pour lever un peu le voile sur la manière dont on fait ces podcasts, je vais simplement dire que bon, d'habitude, je laisse complètement l'invité choisir de quoi il veut parler, mais là, je me suis permis de faire une suggestion parce que je trouve que c'est un superbe film. C'est une sorte de chef-d'œuvre aussi, je crois, de film de genre. On me l'avait presque pas proposé dans les premiers bunkers et j'avais très envie d'entendre Jean Michelin dessus. Alors, je vais simplement résumer l'histoire à très grands traits. C'est un équipage de chars d'assaut, un M4 Sherman pour être précis, commandé évidemment par le personnage de Brad Pitt, qui a fait les campagnes d'Afrique et la campagne de France et qui se retrouve désormais, alors c'est vraiment 24 heures, en pleine campagne d'Allemagne en 1945, et donc char d'assaut qui ouvre la voie vers Berlin et réduit les dernières poches de résistance sur la route, avant que, évidemment, les choses ne se compliquent considérablement durant ces 24 heures.
Which way is the front?
Which way is the front?
All around us, kid, because it's Germany, we're surrounded by crowds.
Alors, colonel, c'est pas que vous soyez vous-même un tankiste.
Non, pas du tout.
Même si c'est une blague qu'on fait souvent, notamment sur Twitter, que vu de loin et pour un non-militaire, tout ce qui roule et possède un blindage est un tank. Mais enfin, vous êtes quand même fantassin mécanisé, donc avec un cœur de métier autour d'un véhicule et du fait que ça peut représenter un univers et surtout une appréhension particulière à la fois de l'environnement et du métier, le fait d'être motorisé.
Absolument.
Donc, comment est-ce que vous avez vu ou revu ce, donc, je trouve, très beau film, qui est donc ce Fury de David Ayer ?
Alors, moi, j'ai un rapport particulier avec ce film parce que, quand il est sorti, il ne m'intéressait, mais alors, pas du tout. J'avais absolument pas l'intention de le voir et je suis tombé dessus un peu par accident. Donc, je l'ai vu plutôt tardivement, moi, et donc je l'ai revu pour le truchement de ce podcast en trouvant des petits morceaux dans ma journée pour le regarder par incrément rapide de 10 minutes, et c'est effectivement un très 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 bon film. C'est un film qui m'a d'autant plus scotché que je n'en attendais rien, puisque j'étais pas spécialement intéressé par la thématique qu'on m'avait pas très bien vendue, j'avais pas lu de trucs très très exaltants, et ça aurait été un tort, parce que c'est vraiment un très bon film. Alors pourquoi c'est bien ? La première raison pour laquelle c'est bien Fury, c'est parce que c'est un thème ultra rebattu, hein, le film de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, il s'en est fait des pleines brouettes, mais c'est un thème ultra rebattu qui est traité sous un angle original, à la fois dans le contexte particulier narratif qui va servir de cœur à l'histoire, c'est-à-dire que c'est le huis clos de l'équipage d'un blindé. Moi, j'ai commencé ma carrière, comme vous l'avez dit, dans l'infanterie mécanisée, dans un véhicule qui s'appelait l'AMX-10P, dans lequel, quand on le regarde en photo, notamment à côté d'un VBCI, on a du mal à s'imaginer qu'on mettait 11 personnes dedans, et pourtant c'était le cas. Donc le huis clos du char, on traite dans un film de guerre la thématique du huis clos, notamment dans les films de sous-marins. Or, le huis clos d'un blindé, c'est quand même autre chose, et c'était très intéressant de le traiter parce que c'est pas tellement couvert, en tout cas c'était pas tellement couvert par le cinéma grand public. Il y a un film russe, je crois, qui traite un peu dans des circonstances similaires de la destinée d'un char solitaire en Afghanistan, que j'ai pas vu, donc j'en parlerai pas.
Effectivement, c'est quelque chose de très puissant que, effectivement, moi je trouve généralement dans les films, alors dans ce qui touche à la mer, c'est-à-dire soit les films de pirates, soit les films de sous-marins, mais d'une manière générale, c'est quelque chose de rare en fait, la claustration, c'est ce qui fait que c'est si particulier de combattre, de faire partie d'un équipage littéralement, puisqu'on parle d'équipage de char d'assaut comme on parle d'un équipage de navire, et ça, structurellement, ça donne une espèce de tension à couper au couteau, qui est vraiment là-dedans, d'autant que c'est vraiment filmé de l'intérieur et souvent en contre-plongée, souvent on est en bas et on voit, on est vraiment presque à aller, disons, au rez-de-chaussée du tank et avec tous ces personnages qui nous entourent.
Ouais, absolument. Et alors, le deuxième aspect de l'angle original, c'est de traiter la fin de la guerre. Alors, c'est là où on se heurte un petit peu au côté réaliste, pas réaliste du scénario. Moi, c'est une de mes vieilles anciennes, hein, le réalisme ou l'irréalisme. J'ai tendance à dire que quand les choses sont bien faites, on s'en fiche. C'est pour ça que ça ne me dérangeait pas ça me dérange pas dans un film de guerre que l'histoire soit pleine de trous. La fin de la guerre, elle est traitée sous un angle intéressant qui correspond aussi à une de mes vieilles obsessions, à l'échelle de l'unité de combat, du pion tactique, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tellement de fin de la guerre où c'est facile. Et moi, ça me renvoie à un souvenir que j'ai depuis que je suis enfant. J'ai regardé beaucoup trop tôt, parce que mes parents avaient dû l'enregistrer sur une cassette vidéo, un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle « De Nuremberg à Nuremberg ». Et à un moment dans ce documentaire, il y a une scène, alors c'est sur la fin de la guerre, il parle de l'avancée des troupes américaines en Allemagne juste après le passage du Rhin, qui est le dernier gros obstacle à l'échelle des grandes unités. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué, je devais avoir 8 ou 9 ans, sur un moment ils parlent, ils disent « Bon, les troupes américaines avancent facilement, ils ne perdent que 300 hommes ». Et moi je me disais, 300 c'est quand même beaucoup, non? J'essaye de me dire, et si dans ces 300, il y a 300 mères qui ont perdu leur fils, et je trouvais, et ça, traiter cette fin de la guerre où on a tendance à considérer que c'est fini, sauf qu'en fait c'est pas du tout fini. C'est fini sur le plan politique. Il n'y a plus tellement de doutes sur l'issue du résultat, sauf que c'est comme quand on est dans une tourelle de M4 Sherman. En fait, tant que le cessez-le-feu n'est pas signé, il n'y a pas de petit engagement. Il n'y a pas d'engagement facile. Les balles font le même poids et les obus ont le même pouvoir de perforation, qu'on soit sur les premiers ou les derniers coups de feu de la guerre.
Et puis c'est toujours le mythe des tout derniers tués en 1918, c'est-à-dire après l'armistice, les derniers combats qui se sont poursuivis, et le fait que c'est un peu idiot d'être le dernier mort d'une guerre d'une manière générale.
Absolument.
Mais du coup, ça provoque aussi une espèce de tension là-dedans, qui est que justement, il y a des va-et-vient dans la tension. Ils sont pas en guerre, ils sont pas sur une ligne de front tout le temps. C'est pas le soldat Ryan, quoi. La plupart du temps, ils font des convois, ils avancent, etc. Et d'un coup, ça se précipite parce que il y a une munition anti-tank qui saute à gauche ou à droite, etc. C'est une phase différente de la guerre, quoi.
Alors, ça parle peut-être aussi à des gens de ma génération. Moi, je suis un soldat qui n'est pas connu de la guerre de front. Moi, j'ai connu la zone d'insécurité permanente, c'est-à-dire le moment où, à partir du moment où on sort du barbelé, on prend le risque que les choses se passent mal à peu près n'importe quel moment. Donc, il y a aussi, je pense, une tension particulière qui me renvoie, moi, dans une échelle très différente, évidemment, à des souvenirs que j'ai de ce côté un peu épuisant d'être sans cesse sur le qui-vive. Parce que la réalité des engagements opérationnels, ce qui est épuisant, c'est pas tellement les phases de combat qui sont peu nombreuses, c'est le fait que à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose de potentiellement catastrophique, comme je l'ai appris, parfois dans des circonstances pas drôles du tout. La deuxième raison pour laquelle ce film est très bien, c'est parce que c'est extrêmement bien filmé. En fait, le réalisateur a fait des choix esthétiques qui sont sans concession. Il y a cette espèce de printemps crade. Les gens qui ont fait des manœuvres en mars-avril dans le nord-est de la France savent ce que c'est qu'un printemps sale. Et il y a un côté très poisseux, en fait, qu'on est en avril, mais on n'est pas du tout sur un avril bourgeon, les oiseaux qui chantent, etc. C'est vraiment une fin d'hiver, quoi. On est vraiment sur une phase de dégel. Et puis il y a cette espèce de manière de filmer, d'utiliser le dans les notamment dans les phases de combat avec un emploi de la caméra hyper nerveux qui fait qu'il y a une espèce de tension qui vous prend à la gueule dès la première scène du film, hein, et qui ne vous lâche plus ensuite. Et ça c'est quand même assez difficile à atteindre, de rendre compte de la nervosité. Il y a une phase de combat de chars, notamment quand les quatre chars affrontent un tigre qui est mieux motorisé, mieux armé,
Donc,
mieux
un
blindé.
tigre, rappelons que c'était
Un char allemand,
un
oui.
char allemand qui était vraiment la terreur des champs de bataille et surtout la terreur des combattants, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait taper un tigre et surtout pas un char Sherman, quoi.
Et alors la troisième raison, et à mon avis la vraie
Mais
raison
alors
pour laquelle...
simplement
Ouais.
sur cette tension, on peut peut-être dire qu'il y a un artifice narratif qui je trouve marche très bien là, c'est que c'est pas un roman, mais c'est un film d'apprentissage. C'est-à-dire on commence avec un jeune personnage qui est pas là pour ça, quoi, qui est pas du tout un tankiste, qui est un dactylographe, qui se retrouve dans le char en même moment que en fait le spectateur se retrouve dans le char, et donc on apprend la guerre en même temps qu'il apprend la guerre.
Absolument.
C'est en quelque sorte le vaisseau pour le spectateur, et c'est un vaisseau dont on voit qu'il est plein de tensions, il sait pas quoi regarder, de la même manière qu'on sait pas quoi regarder au début, et progressivement il apprend ce que c'est de la guerre, et sa haine, disons, et son esprit de combat grandit au fur et à mesure, et on le suit un peu là-dedans d'ailleurs.
Et alors, en fait, ce personnage, il est intéressant, et c'est le troisième point que je voulais aborder. Ce qui est intéressant dans ce film, ce qui fait que c'est vraiment un bon film, c'est que les personnages et la direction d'acteurs sont remarquables. On a comparé ce film assez défavorablement, parce que avec Le Soldat Ryan, l'une des grandes critiques qui a été faite à Fury, c'est des ressorts qu'on a déjà vus 1000 fois, la jeune recrue qui connaît rien. Sauf qu'il y a quand même une grosse différence avec Le Soldat Ryan, c'est que Le Soldat Ryan, c'est un film qui prend à la tronche sur un quart d'heure, 20 minutes, de manière absolument terrassante, et ensuite, c'est quand même très convenu, et on sent quand même toute l'obsession spielbergienne de mettre des messages et des contenus moraux dans ces personnages. Ce qui est remarquable dans Fury, c'est que les personnages sont imparfaits et sont difficiles à aimer. Moi, je comprends qu'on ait du mal quand on regarde ce film avec un œil extérieur, pas du tout au fait de ce que c'est qu'une communauté de soldats dans un contexte comme celui-là. Je comprends qu'on ait du mal à les différencier les uns des autres, à les comprendre, mais moi, c'est des personnages que j'ai trouvés d'une vraisemblance et d'une complexité. J'avais lu une critique quelque part qui disait, oui, on regrette, par exemple, si on en avait su un peu sur l'origine du sergent Wardaddy, alors qu'en fait, dans la vraie vie, il y a une scène qui est révélatrice, c'est quand le nouveau arrive là et qu'ils disent alors tu viens d'où, tu viens d'où? Puis quand il essaie de répondre, il dit mais ferme ta gueule, tout le monde s'en fout d'où tu viens.
Mistake. Army don't make mistake. Do what it do.
You from Missouri?
No. You from Chicago?
Nah, you from Arkansas, ain't you?
No, I'm from
Hey, hush up, man. Nobody gives a fuck where you from.
Et en fait, c'est crédible. L'illuminé de la Bible, le personnage qui est joué par un acteur dont j'ai omis le nom, qui est le chargeur du char, qui est extraordinaire. C'est des gens, alors qu'ils sont américains, donc ils correspondent à des stéréotypes régionaux du vieux sud-américain, qui sont quand même assez bien rendus, mais qui, dans d'autres circonstances, moi, c'est des gens que j'aurais pu avoir, qui ressemblent à des gens avec qui je suis parti en opération.
Mais alors, le chargeur, je vais le dire, c'est l'acteur qui est joué par, enfin, c'est le personnage qui est joué par l'acteur John Bertal. Et effectivement, il y a un truc, c'est qu'ils sont détestables. ils sont durs, et en même temps ils sont durs, et on finit par comprendre que c'est, bah ouais, bah en fait quand on a fait la campagne d'Afrique, ensuite on a fait le débarquement de Normandie, en plus il raconte des trucs atroces sur le débarquement de Normandie, et...
Ah oui, la scène où il parle des chevaux, là.
Ouais, la scène où il parle de ce que c'est que, enfin bon, que de devoir gérer les animaux blessés sur le champ de bataille, enfin bon, c'est vraiment un monologue qui est assez dur à encaisser. Bah en fait c'est ça que fait la guerre à ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens sont détestables parce qu'ils sont un peu modelés par ce qu'ils ont vécu, qui
absolument
était tout à fait détestable.
Et ce qui est bien, c'est que ce qui est vraiment bien, c'est que le réalisateur les prend comme ils sont. Et il ne cherche pas à leur donner des postures morales. Enfin, en fait, quand je repense, après avoir revu ce film, au personnage du soldat Ryan de façon rétrospective, je trouve les personnages du soldat Ryan hyper caricaturaux. Avec l'officier un peu idéaliste qui est instituteur, le vieux sous-off bourru, le tireur de précision, le juif, parce que évidemment il faut qu'il y ait une connotation avec le caractère un peu moral de la guerre, qui est une vieille obsession spielbergienne, qui s'explique tout à fait sur plein de sujets, mais on est clairement sur du hollywoodien. Et l'idée qui me venait en revoyant ça, c'est que si le soldat Ryan était une Rolls, dans son film, il a poncé tous les chromes, il a foutu des grands coups de canif dans les fauteuils et dans les banquettes, mais le moteur est en dessous. Et en fait, il ramène, en faisant ça, la guerre à quelque chose de viscéral. Et en fait, il y a une espèce de malaise physique qui est transmis notamment par le jeu de ces acteurs et par le fait que c'est des personnages sur lesquels on a du mal à susciter l'empathie, enfin, on a du mal à avoir de l'empathie pour ces personnages. Et pourtant, de temps en temps, il y a le rideau qui se fissure. Une phrase qui résonne dans la tête d'un soldat, c'est quand ils disent « best job I ever had ». Ça, c'est fondateur, c'est des mecs qui sont au bout de tout.
Alors ça, on va dire, c'est juste une phrase, c'est une phrase qui se répète l'un à l'autre, soit c'est après pas être mort, mais vraiment être passé à deux doigts, soit avant bon, le final qu'on va pas forcément dévoiler, mais c'est quasiment une incantation.
Best job ever.
Best job ever.
Best job ever.
Best job ever.
En même temps, on sent qu'ils le pensent un peu, mais qu'ils le disent pour se rassurer. C'est très bizarre, ce best job I ever had, donc le meilleur boulot que j'ai jamais eu.
C'est très bizarre, mais c'est ce genre de rite de communication interne propre à un groupe ou à une unité. On a tous des rites, des espèces de mantras, des espèces de qui peuvent être une phrase, qui peuvent être un air de musique, qui peuvent être un souvenir en commun. Ça c'est vraiment consubstantiel des petites unités de combat, quoi. Ça c'est un truc qui se retrouve et qui, moi, me parle. Je suis en famille quand j'entends ça. J'ai l'impression d'avoir fait un bout de route avec ces soldats-là, parce que je reconnais ce signal-là comme un signal d'identification et de reconnaissance mutuelle. Donc je ne suis pas tellement surpris qu'il ait parfois... Et puis, il y a quand même des choses qui sont ratées dans ce film. Le scénario est quand même pas hyper dense, c'est pas hyper prenant, il y a un certain nombre de longueurs et un certain nombre de clichés. Moi, mon vrai reproche à ce film, c'est la bande originale que je trouve ratée, que je trouve trop dramatique, alors que, en fait, j'aurais presque voulu que le réalisateur fasse un choix encore plus radical. Je me faisais la réflexion ce matin en écoutant, en regardant les crédits de fin déroulés avec cette espèce de morceau hyper martial, que je me disais, un choix à la Generation Kill où il n'y a pas une note de musique, sinon ce que les mecs chantent quand ils sont dans leur Humvee, ça aurait été plus adapté. Donc ça, pour le vrai raté pour moi, il est là-dedans, ce qui est curieux, parce que c'est un film qui n'a pas peur de s'affirmer comme film. On est clairement dans le domaine de la création cinématographique, où le réalisateur veut raconter une histoire et il utilise la guerre comme toile de fond et comme matériau, et qu'il n'a pas tellement de soucis de la véracité, historique, quoi.
Ouais, on peut dire qu'il y a aussi vraiment un travail sur... Enfin, c'est très beau. Les plans sont très beaux, et il y a un gros symbolisme aussi. Je recommande vraiment particulièrement... Alors, le dernier plan, évidemment, parce qu'il est aussi fou. Mais la dernière scène, d'une manière générale, est très, très léchée. Mais le tout premier plan aussi... Où je vais simplement le dire. Ouais, voilà, c'est simplement, c'est même pas un cheval, c'est un cavalier qui se balade au milieu des d'épaves de tank et qui se fait assassiner par le personnage de Brad Pitt, ce qui est, donc par le sergent Wardaddy, ce qui est un symbole, enfin ce qui est un symbolisme tellement lourd qu'il en est cocasse, puisque évidemment on sait que dans les armées et au-delà, ce sont les chars d'assaut qui ont repris l'appellation de cavalerie, pour des bonnes raisons, que fonctionnellement il y a des similitudes, mais c'est en quelque sorte la nouvelle cavalerie qui assassine l'ancienne cavalerie et qui fait passer dans le nouveau monde de la guerre industrielle.
Non, donc c'est vraiment un très bon film. J'ai pas envie de vous dire que c'est un film qu'il faut regarder pour passer un bon moment en famille.
Non, mais quand on le commence, on a du mal à le lâcher.
Mais c'est un très bel objet de cinéma et c'est effectivement un très beau rôle pour Brad Pitt. Et c'est aussi la preuve qu'on peut faire des films originaux sur des sujets rebattus et quand même arriver à s'en sortir avec quelque chose qui est un vrai objet, qui a des parties pris et qui est une vraie œuvre. J'ai pas le sentiment, et c'est peut-être pour ça qu'il a pas très bien marché, notamment aux yeux de la critique, j'ai pas le sentiment que c'est un film qui a été taillé pour son époque, quoi. J'ai l'impression que le réalisateur, il avait ce projet-là et qu'il est resté fidèle à l'engagement qu'il avait pris sur ce projet-là, qu'il avait son idée en tête et qu'il est allé au bout de son idée. Et je trouve que c'est pas mal.
Ouais, vraiment, je pense que c'est un des tout meilleurs rôles de Brad Pitt, qui est en fait bien meilleur, je crois, que celui, mais peut-être que c'est pour ça qu'on l'oublie un peu, parce qu'il est un peu camouflé par le rôle qu'il avait eu, assez proche qu'il avait eu dans Inglourious Basterds, peu avant, c'est-à-dire toujours aussi d'une espèce de soldat américain qui roule des mécaniques et qui est, mais en même temps, une espèce de machine de guerre. Je trouve que ce rôle est plus subtil, plus profond, plus beau, mais que on l'a malheureusement un peu oublié.
Mais non, mais Inglourious Basterds, il faut regarder ça comme une comédie. Sauf que en fait, plus le temps passe, moi j'avais passé un bon moment devant Inglourious Basterds et en fait c'est un film que j'ai absolument aucune envie de revoir rétrospectivement, alors que je pense que j'aurais envie de revoir Fury dans pas longtemps parce que c'est quelque chose qui me parle.
Ouais, tout à fait. Merci beaucoup donc Jean Michelin, à bientôt.
Mais
j'espère.
Avec plaisir. C'est toujours une joie d'être avec vous.
Je rappelle, soit dit en passant, que Fury est disponible notamment sur Netflix en ce moment. Et quant à moi, je vous retrouve donc le mois prochain avec un nouveau Bunker, mais aussi bien avant, avec les autres épisodes du mardi et du vendredi. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.